On sait une chose, c'est que les régions du Québec se sentent abandonnées par la décision prise par Air Canada et sa filiale Air Canada Express de ne plus desservir plusieurs villes du Québec, notamment. On a parlé évidemment de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Sept-Îles. Il fut une époque, mesdames, messieurs, où il y avait des pionniers au Québec qui avaient lancé, fondé des compagnies qui sont devenues légendaires. Malheureusement, ces compagnies ont été absorbées éventuellement par Québec Air, qui malheureusement, elle aussi, a fini par disparaître. Un des pionniers de l'aviation civile au Québec, c'est Michel Pouliotte. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. C'est un monsieur qui a tout près de 90 ans maintenant. Michel Pouliotte avait lancé une compagnie aérienne au début des années 50 et qui est devenue Air Gaspé. Air Gaspé, qui a finalement été absorbé par Québec Air en 1973. Michel Pouliotte avait vendu ses parts. Tellement connu dans le monde de l'aviation civile au Québec que l'aéroport de Gaspé, Thérèse, porte son nom. L'aéroport...
Michel Pouliotte.
Oui, l'aéroport. Et imaginez-vous donc, mesdames, messieurs, que parmi les anciens pilotes d'Air Gaspé, il y a un certain Robert Piché. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui, ça me sonne une cloche.
Et je l'appelle encore le commandant
oui,
Piché.
Bien sûr.
Salut, Robert.
Bonjour, Paul. Bonjour, Thérèse.
Bonjour, Robert.
Est-ce que j'ai ramené en toi, Robert, de vieux souvenirs quand j'ai dit Air Gaspé?
Oh, oui, bien, c'est sûr. Moi, j'ai commencé ma carrière à Air Gaspé le 13 décembre 1973. Donc, ça me rajeunit pas, je peux le dire.
Juste avant que ça devienne Québec Air.
Oui, j'étais 2 ans et demi quand même pour eux. Québec Air ont acheté en 76. Nous, on avait été transférés aux Ailes du Nord, qui était le compétiteur direct d'Air Gaspé, qui appartenait déjà à Québec Air. Et en 77, un an et demi plus tard, j'ai transféré à Québec Air la maison mère.
Alors, je vais parler. Évidemment, c'est des souvenirs extraordinaires. Et je vais tout de suite te demander, Robert, ce que tu penses, d'abord, premièrement, de l'abandon de la desserte des régions du Québec.
C'est une décision, tu sais, moi, je peux te dire que si on parle de 73, on remonte dans ces années-là. Nous, on faisait déjà la ligne de les îles de la Madeleine. On couchait aux îles de la Madeleine à tous les soirs. On faisait les îles de la Madeleine de bonne heure le matin, Gaspé, Montjoly, Montjoly, Québec, Québec, Montréal. Tous les jours, on faisait ça de l'aller-retour. Et déjà là, à ce moment-là, les lignes étaient dures d'être rentables parce qu'on faisait ça avec des petits Aztecs, 6 passagers. Et dans les moments d'affluence, genre Noël et les vacances, on faisait ça en Navajo, qui était un 8 passagers, et en Beach 99, qui était un 15 passagers. Et déjà là, on trouvait que c'était dur de remplir les avions à ce moment-là parce que ça coûtait terriblement cher. L'opération, parce qu'il faut que tu comprennes que à Gaspé et les îles de Madeleine, souvent les conditions météorologiques n'étaient pas faciles, donc il y avait souvent des retards, bien souvent de la glace, du vent, de la neige. Donc déjà là, à ce moment-là, dans les années 70, il n'était pas facile de rentabiliser cette ligne-là, et maintenant que les avions sont un peu plus gros, les conventions collectives sont de plus en plus exhaustives, ça veut dire que ça coûte de plus en plus cher opérer ces mêmes routes-là.
Alors, les gens qui rêvent là, de gens, d'entrepreneurs, de gens qui connaissent l'aviation, qui se lèvent demain matin et fondent, si on veut, un Québec Air 2, ce que tu sembles dire, Robert, on se tutoie parce qu'on se connaît bien, Robert, ce que tu sembles dire, c'est que, attention, là, il y a un aspect financier très important là, quand on gère une compagnie aérienne.
Ben oui, à mon humble avis, je peux te dire que ça coûte terriblement cher à cause des conditions que je viens de
ouais.
Dire. Mais on ne pourra pas réinventer la roue. Tu vois, c'est l'histoire comme l'histoire, on va donner comme exemple les îles de la Madeleine. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'affluence pendant 1 mois et demi, 2 mois l'été, un peu dans le temps des fêtes pour ceux qui habitent les îles dans le visiteur. Mais tout le reste de l'année, c'est très difficile de remplir les avions. Et quand tu fais une prévision sur une nouvelle destination, mettons les îles de la Madeleine, Montréal, les îles de la Madeleine, il faut que tu prévois la rentabilité à l'année. Donc, les mois, si tu mettons de 5, 6 ou 7 mois qui sont pas trop rentables, mais il faut que les autres mois compensent pour les mois non rentables. Donc, il faut que tu aies un prix assez élevé à l'année pour être sûr et certain de rentabiliser ton coût. C'est pour ça que les gens, des fois, ils disent souvent que ça coûte plus cher d'aller en Europe que d'aller aux Îles-de-la-Madeleine. Mais en Europe, il y a une masse de population beaucoup qui voyage qui permet de réduire les prix d'avion, les prix du billet d'avion, tandis que les Îles-de-la-Madeleine, ou Sept-Îles, ou comme tu disais tantôt, Val-d'Or, c'est dans les mois morts, de surtout en automne puis au printemps, c'est dur de rentabiliser. Donc, il faut que le prix soit élevé à l'année pour être sûr et certain de rentabiliser. Puis comme on sait, dans toute corporation, ben, il faut qu'il y ait un profit à la fin de l'année pour pouvoir rentabiliser l'opération.
Québec Air, ça avait été une belle aventure. Tu as mentionné d'autres compagnies qui avaient été absorbées également. Les Ailes du Nord qui desservaient la Basse-Côte-Nord, la Mingani. Mais ça a mal fini, Québec Air, Robert. Ils étaient... Le gouvernement du Québec avait injecté beaucoup d'argent là-dedans. Ensuite, il y a eu Nordair, puis il y a eu CPR, qui a tenté de sauver, là, ça devenait intercanadien, à un moment donné, on ne savait plus où on en était. Ils allaient jusqu'à des pertes de 80 millions de dollars. Donc, c'est un pensez-y bien, là, avant de s'embarquer dans une aventure d'une ligne aérienne, disons, nationale.
Il faut avoir une bonne trésorerie, ça, c'est sûr et certain. Puis, ça va dépendre quel type d'avion que celui qui va vouloir partir va le faire. Mais, tu sais, tu as des compagnies comme Pascan ou Air Québec qui pourraient gérer déjà ils ont déjà des opérations dans ces régions-là. Donc, eux aussi, ils sont très bien placés au provincial, sont très bien placés pour justement donner un coup de main au gouvernement pour pouvoir. Mais il reste toujours que la rentabilité de ce service-là, comme j'ai dit tantôt, on ne réinventera pas la roue. Même M. Pouliot, dans le temps, il avait de la misère à rentabiliser son opération. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est obligé de partir d'Air Gaspé de le vendre à Québec. Et puis, d'emblée, quand tu as parlé de M. Pouliot, qui était un pionnier, il ne faut pas oublier que M. Pouliot, là, il était la seule compagnie aérienne dans l'aide du Québec qui engageait des Canadiens français,
oui.
Qui permet à des petits gars comme moi, à 20 ans, de devenir des commandants de bord de gros porteurs internationaux sur toutes les compagnies aériennes à travers le monde. Hein.
Et surtout, Robert, tu as eu l'occasion de piloter des appareils de légende. Tu as été pilote de DC-3.
Alors moi, j'ai volé DC-3, DC-4, DC-6. J'ai volé quasiment toute la gamme de DC. Puis c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir dire qu'on a volé ces avions-là, parce que c'est des avions qui sont mythiques et qu'ils sont pas en opération du tout. Puis c'est des avions après-guerre. Après la guerre, c'était les avions qui étaient... Imagine-toi, ils traversaient l'océan Atlantique en DC-6.
Ouais.
Moi, je l'ai traversé en laquais de distance pendant 3h30, puis j'ai peine à m'imaginer comment que ces gars-là faisaient pour traverser l'Atlantique en DC-6, des moteurs à piston qu'à temps en temps... Il n'y a un qui arrêtait au Bonantil, mais par contre, ça avait 18 heures de pétrole. Fait que, il était capable de mettre du pétrole pour faire le tour de la Terre, quasiment, tu vois.
Robert, de tous les avions que vous avez pilotés, est-ce que vous avez eu un jour un coup de cœur, là, quelque chose à vous personnel? Tu sais, un avion que vous avez beaucoup, beaucoup aimé piloter?
Alors moi, je dois dire, le Lockheed 1011, le premier appareil que Air Transat a acheté quand on partit en 88. J'ai été commandant de bord sur cet avion-là pendant 4 ans et demi pour la compagnie Air Transat. Puis je dois dire, ça, c'était l'avion le plus gros coup de cœur que j'ai eu dans tous les appareils. Parce que j'ai quand même 12 endossements d'appareils sur ma licence de pilote. Et dans les 12 endossements, c'est celle que j'adore le plus avoir volé, c'est le Lockheed 1011.
Le 1011, ce qu'on appelle le Tristar.
Le Tristar. Moi, je suis un opérateur, tu vois. Je me considère comme un chauffeur de gros camions. Puis le Lockheed 1011, lui, c'était pour un opérateur, c'est un avion qui se manipulait très bien. Puis M. Lockheed, quand il a sorti ce modèle-là, il était en avant-gardiste, hein, dans le cockpit et tout, les systèmes de l'appareil. Donc, c'est un appareil que j'ai bien aimé piloter. Ouais.
Robert, justement, puisqu'on parle d'avion, ça va être long. Non, on n'a pas beaucoup de temps, mais Robert, je vais avoir quand même, tu dois avoir un petit pincement, parce que il y a deux appareils qui ont marqué et révolutionné l'histoire du transport aérien commercial. On a parlé du DC-3 que Robert pilotait chez Air Gaspé, bon vieux bimoteur. Il y en a plusieurs qui volent encore, hein, dans bien des régions du globe. Et le Boeing 747, le premier jumbo, là, tout le monde voulait voler en 747, qui a fait son apparition en 69. Et Robert, un petit pincement au cœur, Boeing ne l'a pas vraiment annoncé, mais le 747, là, on n'en verra plus dans les airs, le fameux jumbo. Je trouve que c'est une page d'histoire qui se tourne de l'aviation, là.
Oui, tu as raison de dire que tous les pilotes de ma génération, c'était... l'avion mythique que tout le monde voulait piloter dessus, mais il n'y en avait pratiquement pas en opération au Canada ou aux États-Unis à ce moment-là, tu vois, fait qu'on n'avait pas vraiment le choix. Mais Encore là, si tu dis, tu parles que cet avion-là va disparaître, même les Airbus 380, qui est le plus gros avion commercial au monde passager, sont en arrêt de production.
C'est vrai.
C'est très dur de rentabiliser des lignes entre un point A et un point B pour être sûr et certain qu'il y a une fréquence assez régulière pendant un mois ou pendant toute l'année pour pouvoir rentabiliser l'opération de ces gros appareils-là. Tu vois, c'est de plus en plus difficile. C'est pour ça, d'ailleurs, l'Airbus 220, qui est notre ancien bombardier,
ouais.
C'est sûr et certain que cet avion-là va être plus rentabilisé parce qu'ils sont plus petits, moins chers d'opération, et ils peuvent faire plus de fréquences dans la même journée qu'un gros appareil. Tu sais, nous, notre ligne la plus payante au Canada, c'est Montréal-Toronto. Tu peux pratiquement pas mettre un 747, même si tu es sûr de le remplir entre Montréal et Toronto, parce que la distance est trop courte pour rentabiliser l'opération de cet avion-là.
Ouais, ouais.
C'est des longs courriers, donc il faut que ce soit des longues routes, puis des longues routes, remplir un avion de 300, 400, 500 passagers entre un point A et un point B pour rentabiliser à l'année longue, c'est très difficile. Et la compétition est de plus en plus forte partout à travers le monde. Hein. C'est pas facile.
Et on ne sait pas dans quel état l'aviation civile va sortir de cette période de pandémie. Il y a des gens là, les plus pessimistes, Robert, qui parlent de peut-être 2 à 3 ans avant de s'en remettre dans l'aviation.
Ah, c'est sûr, ça va prendre, d'une part, ça va prendre que les assurances, il va falloir que l'assurance ajoute un annexe aux assurances de voyageurs pour être sûr et certain de couvrir la COVID. Tu vois, ça, c'est primordial. Puis il va falloir qu'il y ait un médicament ou un vaccin qui rassure le public voyageur pour qu'ils vont pouvoir voyager s'ils se font vacciner, qu'ils n'auront pas de problème d'attraper la COVID. Hein. C'est les deux choses essentielles qui vont ramener le public voyageur à voyager en masse comme ça se faisait avant. Parce que le voyageur de masse maintenant, pour l'instant, dans un court période de temps, je ne crois pas que ça va revenir comme avant. Je ne pense pas que c'est possible.
Merci beaucoup, Robert. Puis c'est toujours un plaisir. Je serais content de te reparler, mon cher Robert.
Ben, ça me fait plaisir, Paul.
Au revoir
à vous deux.
Salut.
Robert, on l'a ramené à ses 20 ans.
Ouais.
Pilotait commercial.
À Air Gaspé dans les années.
Gaspé, ouais. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or des jeunes pilotes québécois. Là,
on a un auditeur qui nous écrit que son premier voyage à Acapulco, il l'avait fait en Lockheed 1011.
Oui,
et
le Tristar.
Que c'était un bel avion.
Oh, c'était un avion formidable. Ouais, ouais. Formidable. Tri-réacteur. Il avait comme concurrent le DC-10 de McDonald's. Et Air Canada en avait des Lockheed 1011.
Et je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus gros transporteurs entre Montréal et Toronto. C'est quand je dis plus gros, là, en termes de... Plus j'ai compris avec
vous voulez dire gros porteurs?
Oui, oui, de gros porteurs.
Parce que ça coûte trop cher à exploiter.
Parce que je me disais, mon Dieu, ils font tellement...
Oui, mais ça coûte trop cher de les faire lever. Ouais, ouais. Alors, donc, le 747, un des deux appareils légendaires...
Pour être plein.
Disparaît du ciel. Pour vous dire une chose, moi qui aime regarder en haut, ça passe plus souvent un avion dans le ciel.
Oui.
Vous avez remarqué?
Il y en a moins, là. Mais ça va revenir.